Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
La blague du jour, une devinette. Parmi ces trois jeunes femmes, une blonde, une rousse et une brune, laquelle est la plus intelligente ? Eh bien, bah, c'est la rousse, parce qu'elle a écrit un livre.
Très bien, merci.
Désolé, j'avais pas lieu.
Trafic et exploitation des enfants. Travail forcé, enlèvement, maltraitance. Enfants soldats, manque de scolarité, esclavagisme, prostitution, pédophile, tourisme sexuel, valeur marchande, causette, abus de confiance, innocence, pauvreté, déclaration des droits de l'enfant, adoption internationale, H2O, enfants des rues, trafiquants. Trafic d'organes, abinos, et bossu, conçu de minimis, Jordi, protection de l'enfance, grande délinquance. Vous l'avez compris, nous allons vous parler aujourd'hui de trafic et exploitation des enfants. Est jugé inacceptable par l'Organisation internationale du travail, un travail trop long, trop dangereux, pour un enfant trop jeune, etc. En 2002, on estime que plus de 210 millions d'enfants de 5 à 14 ans et 140 millions d'adolescents de 14 à 18 ans sont concernés, dont 8 millions par les pires formes de travail des enfants. Enfants soldats, prostitution, pornographie, esclavage moderne, trafic d'enfants. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons l'Association de la cause des enfants, Madame Nathalie Le Thor, et du réseau Éducation sans frontières, Vincent Breuil et Claire Mabille.
Un micro-trottoir turbulent, des tests du poids des mots, d'une violence inévitable, une interview qui laisse des traces, une petite cuisine sans souffrance, un avalo criminel par sa maltraitance, une minute de Paul massacrant pour vous servir aujourd'hui.
Pour vous servir aujourd'hui, oui, il y a Didier, il y a Stéphane, il y a Chantal, il y a Caroline. Qui est-ce qu'on a d'autre ? On a Rémi. Et puis voilà, Sandrine, Vivien, Timothée, les invités.
Émerveillement tout d'abord, le monde est merveilleux. Niaiserie, dira-t-on ensuite, le cynisme en cache misère. Fin de l'innocence, maintenant c'est taper ou être tapé. Apprendre à détruire, apprendre à trahir, apprendre à haïr. Ne t'inquiète pas pour cette petite voix, telle un acouphène. C'est cette fichue conscience. Elle est comme tout, elle s'achète. Et que je milite écolo, et que je vais à l'église, et que je donne aux bonnes offres, et que de toute façon, c'est pas de ma faute.
Toi l'enfant, t'es comme un adulte normal, sauf que toi, tu ne sers à rien. T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents. Bah moi, les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays. Les enfants, ça sert à rien. Faut les brûler, comme au Brésil. Et tous les jours, tu nous fais des petits dessins. Des petits bonhommes, des maisons et des soleils. On te dit jamais rien, sinon après tu chiales. Mais en fait tout est des sables, c'est vraiment de la merde.
Les enfants, ils ont pas de talent. Faut les brûler, comme au Brésil.
Puis tu dis à tout le monde que quand tu seras grand, tu vas devenir cascadeur, vétérinaire ou bien pilote de chasse. Mais déjà trouve-toi du boulot et après on en reparle.
Les enfants, ils ont des grands yeux.
Et toi le petit chinois qui bosse à l'usine, tu es vraiment inconséquent. Ton contrat de travail, tu le négocies tellement mal que du coup ça se répercute sur mon système social.
Les enfants,
mais merde, normalement c'est guitare là, c'est guitare, oui. 1, 2, 3, 4.
Les enfants, faut les brûler comme au Brésil. Faut les fumer de désert comme en Afrique. Faut les rendre encore plus contents que leurs parents comme chez nous.
Et quand un vieux monsieur te fait l'amour, même si t'as pas forcément l'âge pour y prendre goût, c'est pas marrant pour un vieux qu'on lui rappelle son âge. Alors sois poli et simule.
À votre avis, comment ont évolué les droits des enfants?
On est plus attentif aux droits des enfants. Malgré tout, il y a encore de gros efforts à faire. C'est vrai qu'on est beaucoup plus à l'écoute des enfants. Avant, les enfants n'avaient pas forcément la parole, c'était les adultes qui primaient. Maintenant, c'est vrai qu'on a plus tendance à les écouter et à être attentif aux signes aussi qui peuvent transparaître sans forcément qu'ils disent qu'ils sont maltraités ou qu'ils sont dans le mal-être. On est plus attentif à ces signes-là parce qu'on est beaucoup plus informé aussi du type de maltraitance qu'il peut y avoir aujourd'hui, quoi.
Bah, ils ont beaucoup évolué parce que c'est vrai qu'avant on prenait, si je peux dire, des claques à tout va, que maintenant, heureusement que si on lève un petit peu trop les mains, si on fait des bleus ou quoi que ce soit, ils peuvent se plaindre, quoi. Ça, c'est très bien.
Le droit des enfants, souvent les enfants ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Oui. Des représailles. Il y a des services sociaux, mais je pense qu'ils font pas assez leur travail parce que c'est de pire en pire. Vous écoutez les informations, vous lisez les journaux. Tous les jours, vous voyez sur les journaux combien d'enfants qui sont tués, qui sont maltraités. C'est de pire en pire. Moi, je suis assez dans un âge où on ne voyait pas ça dans mon enfance. Et je crois que ça va de pire en pire, où les enfants sont de plus en plus maltraités par leur famille. Et les assistantes sociales, même les voisins ne portent pas plainte, même s'ils entendent des cris, parce qu'ils ont peur. Je crois qu'un enfant qui est battu, on doit le dire. Parce que lui, il ne parle pas. Il pleure de tout seul.
Il y a eu des choses de fait. Bon, je trouve qu'il n'y a pas assez. Mais bon, après, c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce que certains diront qu'une bonne fessée à un enfant, ça, peut-être l'enfant va être maltraité. Mais des fois, il en faut des fois. Parce que des fois, quand on voit maintenant, les enfants font un peu n'importe quoi. Donc, il y a du bon et du mauvais.
Je dirais dans le bon sens, mais bon, après, il y a des choses qui sont toujours cachées. Hein. Tout est fait en cachette. Et puis, il y a les menaces. Si tu le dis, ça va se passer. Donc, il y a toujours eu des droits, mais ça reste tabou.
Les droits des enfants?
Oui.
Est-ce que les enfants ont des droits?
Oui,
non, mais si, quand on entend ça, ça fait bizarre. Oui, excusez-moi. Hein.
Oui.
Mais,
justement,
oui. Oui, il faut que ça évolue, mais il faut que ça évolue dans le mieux encore. Oui.
Il faut que ça évolue mieux.
Ah, oui. Ou si un enfant il veut son émancipation, il faut y accorder. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou des fois, quand ils sont placés, il faut aussi leur demander leur avis. Parce que des fois, c'est peut-être pas le but recherché. Il y a des problèmes, mais il faudrait mieux gratter, quoi. C'est mon avis. Hein.
Ça a évolué très vite. Avant, les professeurs pouvaient taper les enfants sur les doigts. Ou les parents peuvent donner des fessées. Aujourd'hui, les fessées, on va en prison si on donne des fessées à son enfant. Et son enfant se plaint à la police.
Eh bien bonjour, pour répondre à une question sur le trafic des enfants aujourd'hui, vous venez d'entendre un micro-trottoir, on reviendra là-dessus. Nous accueillons Mme Letor Nathalie de l'association La Cause des Enfants et M. Vincent Breuil du réseau Éducation sans frontières et Claire Mabille du même réseau, réseau Éducation sans frontières. Alors pouvez-vous, vos deux associations respectives, pouvez-vous nous présenter vos associations et quelles sont vos missions et vos objectifs ?
Bonjour, je suis Nathalie Letor, donc de la Cause des Enfants. Nous, notre association, elle a 31 ans cette année et donc on fait essentiellement donc des préventions des violences et des maltraitances faites aux enfants. Et donc les droits de l'enfant sont au cœur de ces préventions puisque justement c'est éduquer aux droits de l'enfant pour rendre ces enfants justement, leur donner en tout cas des outils de protection qui vont leur permettre de se protéger justement contre toutes les violences qu'il peut y avoir dans la vie quotidienne.
Alors le réseau Éducation sans frontières n'est pas une association mais un collectif citoyen, hein, donc pas une personne morale, hein, constitué essentiellement d'enseignants ou d'enseignantes à la retraite, mais pas uniquement. Et nous, les missions que nous nous sommes données, donc c'est l'accompagnement dans les démarches juridiques au départ, mais maintenant ça va bien au-delà, des mineurs isolés étrangers qui arrivent sur notre territoire et des familles avec enfants scolarisés pour lesquels nous essayons d'obtenir que leurs droits soient respectés, que des papiers soient obtenus et qu'ils puissent s'intégrer au mieux dans notre société.
Pourriez-vous, quelles sont vos réactions par rapport au micro-trottoir ? Je m'adresse aux deux personnes, aux trois personnes, pardon.
Je trouve qu'il est bien, il montre bien le regard de la société justement sur ses droits de l'enfant et sur l'application de ces droits dans notre société, mais surtout aussi tous les préjugés, les stéréotypes qu'il peut y avoir aussi autour de ces droits. Moi, j'entends quand même qu'il y a beaucoup de choses autour de la protection des enfants et un manque, peut-être en effet, de notre État. Et puis, de nous, en tant que citoyennes et citoyens, justement, à protéger les enfants contre toute forme de violence. Moi, j'ai mon regard aussi et mon expérience un petit peu positive où je vois autour de moi, en effet, des associations, des collectifs, en tout cas des personnes, des femmes, des hommes qui se mobilisent justement pour prévenir toutes ces violences faites aux enfants. Donc j'ai espoir en tout cas qu'on évolue vers une société un petit peu plus, en tout cas bien traitante. Mais en effet, il reste du travail à faire. Et pour moi, en effet, tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui est violence physique faite aux enfants, on devrait discuter pour que ce soit complètement interdit, bien sûr, mais surtout que dans nos consciences, ce soit même plus le premier réflexe de frapper, mais plutôt d'essayer de discuter et de faire comprendre pourquoi il y a des règles et puis pourquoi aussi il y a des comportements à avoir pour apprendre à vivre ensemble.
Et pourriez-vous, je me rappelle plus, vous n'êtes pas une association, monsieur Breuil, vous êtes...
Un collectif.
Un collectif, d'accord. Vous-même, quelles sont vos réactions à vous et madame Mabille par rapport au micro-trottoir que nous entendons ?
Alors, le micro-trottoir, il s'adresse à une partie des enfants seulement, hein, parce que les grands principes inscrits dans les droits de l'enfant, ils sont censés être universels. Et selon le milieu dans lequel on est, selon l'origine qui est la nôtre, on n'a pas tous accès à ces droits de l'enfant. Hein, c'est quelque chose d'assez inéquitablement réparti. Et nous, au réseau Éducation sans frontières, nous avons un point de vue particulier parce qu'effectivement, nous nous occupons des enfants étrangers. Et en France, pays de l'égalité, un enfant étranger ou français reste un enfant. Et normalement, il y a une égalité de droits. Un enfant étranger n'a pas besoin d'un titre de séjour pour accéder à ses droits sur le territoire. Et on s'aperçoit que ces grands principes, ils sont quand même assez largement battus en brèche pour tout un tas d'enfants dont il n'a pas été question forcément dans ce micro-trottoir. Effectivement, les droits des enfants ont évolué dans notre société et dans la classe moyenne et la classe la plus favorisée. L'accès à ces droits se fait de plus en plus, quelquefois même un peu trop, puisque les enfants deviennent des objets de marketing et on pourrait se poser des questions à ce sujet-là. Maintenant, nous accompagnons des enfants qui n'ont accès aujourd'hui à aucun droit dans notre société et dans notre société démocratique. Donc nous avons un vrai signal d'alarme à tirer par rapport à ça.
Eh bien, je passe la parole à Marie-Chantal.
Comment définir-vous la maltraitance ?
Comment définir la maltraitance ? La maltraitance, elle a plusieurs formes. Elle a donc une forme, en effet, de la maltraitance physique. Donc, c'est tout ce qui est atteinte et blessure, voire jusqu'à la torture, donc atteinte au corps. Vous avez la maltraitance morale, psychologique, où là, en fait, sans qu'il y ait forcément le corps qui soit atteint, bah, c'est la psyché de la personne. C'est une atteinte vraiment... vraiment grave et importante parce que ça a des conséquences importantes sur le développement de l'enfant. C'est tout ce qui est en effet rejet parce qu'il est différent ou on va le dénigrer, on va jamais lui faire de compliments. Enfin, on aurait plein d'exemples, vous imaginez bien. Et puis il y a aussi une violence qui est rarement évoquée, un petit peu plus maintenant avec l'actualité. Ce sont les violences sexuelles, hein, qui restent quand même pour les enfants, notamment entre 0 et 6 ans, une des maltraitances les plus les plus répandues, quoi, et les plus au niveau de la justice, qui vont vraiment représenter quelque chose de très important. Donc tout ça, voilà, pour éviter que ce soit tabou, en tout cas, c'est important d'en parler. Et vraiment, je tiens à vous remercier d'avoir choisi ce sujet-là, parce que, grâce à vous, on va encore en parler aujourd'hui. Donc merci.
J'ai une autre question. C'est pour M. Breuil ou vous, Mme Le Thor. Quelle est la frontière entre l'exploitation et aider ses parents ? Qui prendra la parole et qui... Monsieur Breuil.
Alors moi, les enfants que j'accompagne ne sont pas exploités par leurs parents, hein, puisque leurs parents beaucoup sont sans parents, hein, les mineurs isolés qui nous accompagnent en particulier. Et donc la maltraitance spécifique que subissent ces enfants qui nous arrivent, qui ont en général entre 14 et 17 ans, c'est une négation de leur propre identité. Négation de leur propre nom, dont on conteste qu'ils sont qui ils prétendent être. Négation de leur infantilité. On nie le fait qu'ils soient des enfants en contestant systématiquement leur date de naissance. Donc on décide qu'ils sont majeurs alors que tout montre qu'ils sont mineurs. Alors pour éviter que quelques fraudeurs passent entre les mailles du filet, on est en train de priver des dizaines et des dizaines d'enfants d'un droit à un avenir et du droit à l'accès au droit commun. Donc on a des enfants aujourd'hui qui ne sont plus ni mineurs ni majeurs. Ça veut dire qu'ils ne bénéficient pas de l'aide sociale à l'enfance, mais qu'ils ne bénéficient pas non plus de l'aide aux majeurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès ni au 115 pour l'hébergement d'urgence, ni à l'accueil de jour. Donc pour ces enfants sans parents, qui sont arrivés sans parents, il y a une négation même de leur propre humanité, puisqu'ils n'existent plus, ils n'ont plus de nom, ils n'ont plus de date de naissance, ils n'ont plus de droit. Et par rapport aux enfants scolarisés français, beaucoup voient leurs parents contestés dans leur droit au séjour, y compris les enfants français de parents étrangers, pour lesquels on conteste systématiquement la paternité du parent français et qui se retrouvent privés d'hébergement, privés de droit à des revenus, à un travail, à un hébergement. Le seul droit qui reste, c'est encore le droit à l'école, dans notre pays, pour ces familles-là.
Je voudrais juste rajouter quelque chose, notamment sur la maltraitance et le fait que justement, on a tous un rôle, ce droit d'être protégé contre les mauvais traitements. Ça s'applique bien à toutes les personnes, tous les adultes, hein, même si on ne connaît pas l'enfant, qu'on va constater qu'il est maltraité. Il y a une obligation, en tout cas, de porter assistance à cet enfant, ou même après aux adultes. Hein, c'est la loi qui nous dit. Il y a quand même des lois qui sont quand même utiles, j'allais dire, comme celle de non-assistance à personne en danger. Et on s'aperçoit en ce moment que dans les tribunaux, il y a beaucoup, beaucoup de condamnations, justement, pour des personnes qui sont restées complices, en fait, de ces maltraitances, qui n'ont pas révélé les maltraitances et qui, à l'heure actuelle, peuvent être condamnés. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et ça, je le répète, moi, quand on est dans les préventions avec les enfants, même si on ne connaît pas l'enfant, on doit lui porter assistance. Et pour n'importe quel enfant, il n'y a pas de différence. On ne peut pas faire de différence entre les enfants.
Alors, dans le cadre du réseau Éducation sans frontières, les enfants que nous accompagnons, on peut parler quand même de maltraitance aussi institutionnelle, puisque... ils doivent être normalement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et ils sont souvent tout simplement mis dehors, hein, quand ils se présentent au conseil départemental. Voilà, ils n'ont pas le droit ni même à un hébergement. On leur dit qu'il n'y a pas de place. Donc à partir de là, la seule solution qu'ils ont, c'est devenir SDF. Et on les récupère souvent dans des situations vraiment urgentes et catastrophiques.
Oui. Justement, je veux dire, par rapport à ce que vous avez dit, à partir de quel moment peut-on savoir, peut-on savoir Comment aider mieux les enfants dans ces cas-là, quoi. Je veux dire, quelle est l'approche que vous pouvez faire, vous, une meilleure approche pour pouvoir contacter les enfants, vous les seuls. Comment ça se passe exactement? Je m'adresse à vous deux.
Alors, au réseau Éducation Sans Frontières, on a un atelier tous les mercredis qu'on a créé pour répondre à une urgence, alors que ce n'était pas nos missions de départ. On a tous les mercredis 30 à 35 jeunes qui arrivent qui viennent chercher un soutien, un atelier d'alphabétisation, chose qui ne relève pas de notre compétence, qui relève des institutions, mais qui n'est pas menée à bien par les institutions qui devraient le faire. Ça c'est une première chose. Donc moi je participe pas à ces ateliers puisque je suis plutôt moi sur les familles et les enfants mineurs. Donc là sur l'accompagnement, on s'aperçoit qu'effectivement sur les personnes étrangères il y a un vrai déficit. Mais moi je travaille sur le quartier de la Madeleine au quotidien. On parle de travailleurs sociaux. Aujourd'hui tout cela est technocratisé dans des partenariats obligatoires entre différentes institutions. Et la plupart des travailleurs sociaux aujourd'hui, pas tous heureusement, il en reste quelques-uns qui sont sur le terrain, travaillent entre eux dans des bureaux, ils sont en train de se coordonner dans des bureaux, et pour faire du social, il n'y a plus personne dans les rues, il n'y a plus personne dans les cages d'escalier. Et les travailleurs sociaux n'ont même plus accès, alors les assistants sociaux du département sont confinés dans la maison des solidarités, derrière un guichet unique, dans une mission dans laquelle ils sont très mal à l'aise et où les gens ne veulent plus aller. Donc on a technocratisé à outrance les travailleurs sociaux et le travail social, donc il y a des gens qui sont dans des bureaux à faire un travail social, qui coordonnent sur le terrain quelques professionnels sous-payés et sous-formés et des bénévoles. Donc on est dans une absence d'accompagnement, dans une absence de perspective et de volonté d'émancipation des populations les plus défavorisées. Donc il y a une vraie lacune qui est liée à l'organisation de la société comme ça en strates administratives et cloisonnées dans des institutions qu'on oblige à travailler ensemble, mais plus pour faire des réunions que pour être vraiment sur le terrain.
Moi, je voudrais donner quand même un avis, voilà, aussi. C'est-à-dire que nous, dans le cadre des préventions qu'on peut faire dans les écoles, il nous arrive d'avoir des révélations d'enfants qui vont nous révéler, voilà, des maltraitances. La première chose à dire à un enfant, justement, qui vient se confier et qui vient révéler ses violences, c'est lui dire d'abord « je te crois », parce que ça, c'est important. Et puis « je te crois et je suis vraiment content que tu sois venu m'en parler » pour lui donner aussi confiance en l'adulte et puis qu'il puisse justement repérer l'adulte comme quelqu'un qui va pouvoir l'assister. Et puis après, on essaye de trouver ensemble en fait des solutions qui vont lui permettre que ces violences s'arrêtent. Quand on est un citoyen ou une citoyenne, c'est vrai que c'est compliqué. Alors il y a quand même un numéro qui s'appelle le 119, qui est un numéro, voilà, 119, enfance en danger, qui en effet fonctionne puisqu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'appels par an, j'ai pour les chiffres, mais c'est important. Et puis une cellule de recueil d'informations préoccupantes de conseil départemental, où en effet on peut aussi solliciter donc ces travailleurs sociaux pour pouvoir en effet en tout cas alerter et mettre en place en effet des mesures soit éducatives avec les parents, soit des mesures en effet de protection de l'enfant. En effet, il y a des défaillances et quelquefois ça fonctionne pas. Et puis, on voit bien qu'il y a il peut y avoir des différences, en effet, par rapport aux enfants et aux jeunes immigrants qui arrivent sur notre territoire. Mais je pense qu'il y a une volonté, en tout cas, des travailleurs sociaux de terrain, de pouvoir aider ces familles et ces enfants avec les moyens qui leur sont attribués. Voilà, mais c'est à nous de changer ces sociétés, c'est à nous, voilà. Mais ouais, que ce sujet soit pas tabou et qu'on continue de faire évoluer et qu'on continue en effet d'avoir des combats, même si c'est violent un combat, en tout cas d'être plutôt dans une optique de vouloir changer, faire évoluer notre société plutôt vers la bientraitance.
Alors, pour,
je suis positive, moi.
Si je peux prolonger, ce que dit Nathalie. Bon, moi, je suis au quotidien, effectivement, sur un quartier très défavorisé auprès de populations les plus défavorisées. Donc, je parlais un petit peu de cette technocratisation inefficace. Il y a aussi une organisation de notre société où l'État a délégué cette capacité à la protection de l'enfance au département. Et en fait, en fonction de la couleur politique des départements, la difficulté, les droits de l'enfant ne sont pas traités de la même manière, puisque le dimensionnement budgétaire est lié à un choix politique. Donc la protection de l'enfance, elle est liée à des choix budgétaires et à des choix politiques, alors que pour nous, elle devrait être absolument inconditionnelle et la même sur tout le territoire. Pour nous, c'est un peu ça la République et la République des centralisé, c'est plus tout à fait la République quelque part, puisqu'on a une multitude de confettis de républiques qui fonctionnent chacun un peu de manière différente. Et ça, pour moi, ça ne peut pas être satisfaisant. L'État, d'ailleurs, ne compense pas ne compense pas de manière budgétaire tous les besoins dans les départements concernant l'aide sociale à l'enfance. Et c'est d'ailleurs derrière ce prétexte-là que se retranche l'aide sociale à l'enfance pour ne pas appliquer la protection à tous les enfants dont elle devrait avoir la charge.
Par qui est repérée la maltraitance?
À qui?
Par qui est repérée la maltraitance?
Par qui est repérée la maltraitance?
Ouais. Ben, c'est un peu ce qu'on vient de dire. Ça peut être donc nous, par exemple, dans le cadre de nos préventions. Vincent, quand ils sont dans le cadre aussi de recevoir ces jeunes qui racontent leur histoire compliquée, difficile, voire dramatique. Mais ça peut être aussi si vous êtes identifié comme une personne de confiance. C'est-à-dire que l'enfant, il a confiance en vous. Et ben, il va peut-être vous révéler des violences qu'il subit. Et voilà. Ça, le problème, c'est qu'il faut arracher cette étiquette, vous voyez, de tabou et de peur de ce sujet-là, pour qu'il y ait plus d'adultes, en tout cas, qui soient en capacité de pouvoir les entendre.
Alors, bon, c'est aussi le rôle des enseignants. Hein. Les enseignants sont en première ligne pour le repérage des maltraitances, et puis forcément aussi les médecins de famille. Oui. Je crois que ce sont les deux principales sentinelles sur la maltraitance subie par les enfants.
L'éducation nationale représente 40% des signalements faits dans l'heure. Voilà, donc c'est pour vous dire que oui, en effet.
Y a-t-il des... quels sont les devoirs des enfants? Il y a dans le même droit qu'il y a des... Quels sont les devoirs des enfants par rapport à la société ou au groupe familial?
Alors ça, j'adore. Moi, c'est toujours ce qui revient. Droit et devoir de l'enfant. Nathalie, n'oublie pas de parler des devoirs de l'enfant. Dans le mot droit, de toute façon, les devoirs, ils sont obligatoires, puisque quand on est sur une loi, c'est contraignant, c'est parfois contraignant. Des droits, il y en a plusieurs. On en a déjà évoqué quand même plus certains, là. Donc moi, je les ai notés un petit peu, là, pour ne pas en oublier. Droit à la vie, c'est-à-dire, là, on parle du logement, de l'alimentation, des vêtements quand il fait froid l'hiver. Le droit de jouer, le droit d'être en famille. Le droit à une identité, et ça, Vincent, il l'a rappelé, ça, c'est un droit qui est indispensable, parce que c'est ce qui va permettre de reconnaître justement qu'une personne a des droits et qu'elle va pouvoir aussi pouvoir faire appliquer. Voilà, il y a le droit donc à sa culture, à la religion aussi. On a le droit de choisir sa religion. Un enfant a le droit de choisir sa religion, même si souvent ce sont les parents qui vont choisir pour lui dans un premier temps, mais il a le droit aussi de donner son avis. Le droit à l'éducation, que ce soit les parents, mais moi je prouve qu'il y a l'école, il y a tous les adultes qui sont autour de l'enfant. Il y a le droit donc d'être protégé contre tous les mauvais traitements, le droit d'être protégé contre l'exploitation, le droit de ne pas faire la guerre et d'être protégé en cas de conflit, d'avoir un refuge, d'être secouru. Et puis surtout, il y a le droit à l'expression. Parce que le droit à l'expression, c'est celui qui va permettre de défendre tous les droits qu'il a. Et que si on l'empêche de parler, si on lui donne pas en tout cas une possibilité de pouvoir s'exprimer, souvent c'est là que les droits vont s'arrêter et que voilà. Je ne parle pas en effet à chaque fois des devoirs, mais pour moi, dans chacun, on retrouve en effet, on a droit à l'éducation. Bah oui, il faut que j'aille à l'école et puis oui, il faut que je respecte l'enseignant et que voilà. Oui, donc ça c'est un devoir qui paraît voilà. Mais mine de rien, vous voyez, c'est tellement pour moi c'est tellement évident que je trouve que c'est dommage d'opposer et puis de mettre une responsabilité dans le coup sur les enfants. Alors que quand même, c'est aux adultes de choisir et de décider pour eux. C'est les adultes qui sont responsables. Après, aux enfants d'en faire quelque chose de positif pour notre société.
Je crois qu'ils ont le droit, ils ont le droit à être subordonnés à une autorité. Et là, c'est une difficulté qu'on rencontre dans la période actuelle où il y a des familles où un individu, une voix. Donc un enfant vaut un adulte. Regardez les gens faire les courses au supermarché. Qu'est-ce que tu veux manger? Ce sont les enfants qui remplissent le caddie. La manière dont on se nourrit, c'est aussi notre santé. Donc on a des enfants qui sont éduqués sans frustration aucune, jamais. Et éduquer un enfant, c'est d'abord lui apprendre à accepter la frustration. Et donc on a aujourd'hui, dans cette société de la distraction et du plaisir immédiat, une incapacité de tout un tas d'acteurs éducatifs d'abord dans les familles, à imposer des choses et à faire accepter la frustration. Et on a des enfants qui sont dans une espèce de toute-puissance et qui n'ont pas ce droit à une autorité à laquelle ils sont subordonnés et qui ne parviennent pas à se construire parce qu'ils n'ont pas cette autorité-là. Mais je crois que le métier de parent, ça s'apprend. Et aujourd'hui, on n'est pas en train de fabriquer des parents responsables, mais plutôt des consommateurs avant toute chose et surtout... des consommateurs à qui on demande de ne pas exercer leur libre arbitre. Et je crois que les enfants ont droit aussi à une éducation au libre arbitre. Et ça, il va être grand temps qu'on se mette à le penser un petit peu.
Je m'excuse, j'ai une autre question. C'est quant au droit et au devoir. Est-ce qu'un mineur peut aller porter plainte ?
Oui.
Oui.
Ben oui. Il peut se présenter.
Il
peut se présenter à la gendarmerie, au commissariat de police pour porter plainte. Mais vous imaginez bien que pour un enfant, enfin en fonction de son âge, hein, c'est quand même pas une démarche facile. C'est déjà pas facile pour un adulte, mais oui, il peut.
Un enfant aime ses parents, même quand ils sont maltraitants. Et c'est très très compliqué pour un enfant d'aller porter plainte contre ses propres parents, même s'il est maltraité. Et on en fait l'expérience assez quotidienne dans certaines de nos écoles.
Ils ont besoin d'être accompagnés.
Alors, concernant les mineurs isolés, en fait, on ne peut pas vraiment parler du terme porter plainte, mais quand ils ne sont pas pris en charge par l'ASE, ils peuvent faire un recours auprès du juge des enfants. Et ils ont quand même accès à la justice. Simplement, comme ils sont seuls, c'est très compliqué pour eux de pouvoir faire cette démarche, même d'en prendre connaissance. Elle est notifiée sur le document qui leur est remis, mais il faut déjà encore qu'ils sachent lire, qu'ils parlent français. Qu'ils sachent lire. Et c'est pas toujours évident. Donc nous, on les accompagne dans cette démarche pour faire porter un recours auprès du juge des enfants et faire reconnaître la validité de leurs papiers et leur minorité.
Eh bien, nous remercions Madame Le Thor Nathalie de l'association La Cause des Enfants et Monsieur Vincent Breuil et Madame Claire Mabille du collectif Réseau Éducation Sans Frontières. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à vous.
Merci de votre accueil.
Merci.
No doubt. On vient d'écouter Pink Floyd, en tout cas dans une version un peu particulière, et ce morceau Another Brick in the Wall. Rémi, on vous retrouve pour un texte.
Eh bien, un petit texte au point des mots. Mon petit neveu de 8 mois a grimpé lors de sa sieste sur son cheval et son vélo, deux jambes solides pour chacune, car il a deux jambes de bois en su, depuis son escapade en hélicoptère. C'est normal, son métier c'est cascadeur, bref, comme tous les mômes. Rien de bien folichon, je me souviens lors de son saut à l'élastique du haut de la tour Eiffel, après avoir exécuté sa danse rituelle dans les airs, après avoir sauté dans le vide donc. Bon, bref, je dirais que des jeux, bien qu'ils soient riquiqui tout petits, cela ne lui a pas rapporté des bonbons, bon certes, mais pas de bonbons. Quoi. C'est un peu confus, mais c'est l'idée, quoi.
Pour la petite cuisine de zone libre aujourd'hui, nous allons faire des madeleines au cœur de Nutella. Waouh, alors une madeleine, c'est des madeleines et avec un cœur au Nutella. C'est rapport à l'enfance, j'imagine. C'est une recette qui a une très bonne note sur Internet. Et je suis sûr qu'on va parfaitement la réussir aujourd'hui. Alors, les ingrédients, pour commencer. Il faut 130 g de beurre demi-sel fondu, 3 œufs, 130 g de sucre roux, une cuillère à soupe de miel, mais on ne va pas mettre de miel, 150 g de farine, un demi-sachet de levure, un citron, le zeste, 2 cuillères à soupe de Nutella ou autre pâte à tartiner.
Alors, et je vois que c'est prévu pour 30 madeleines. On a un moule à 18 madeleines, donc on va se débrouiller.
Alors faire 30 avec 18, bon, je ne vais pas me lancer dans les maths, mais ça ne doit pas être dur. Alors on va commencer, je ne sais pas si on commence peut-être par faire fondre le beurre. Non. Donc ils nous disent de préchauffer un four à 200 degrés, thermostat 6-7, de fouetter les œufs à la main. Le sucre et le miel, donc il n'y a toujours pas de miel, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc on va commencer par fouetter les œufs.
On va commencer par les 3 œufs.
Oui.
Et le sucre.
Les 3 œufs et le sucre. Le sucre, 130 g de sucre roux. Il ne faut pas du sucre blond ou brun, c'est du sucre roux. Alors pour les fidèles de l'émission, on a investi dans un verre doseur. Plus pratique que le verre à bière.
Rôle
dans tous les états.
C'est à peu près bon, là ? Non, pas du tout.
Donc en fait, pour faire 130 grammes, il faut que ça monte au niveau du 130.
Oui, mais alors voilà. Il y a 125 ou 150.
Voilà, ça a l'air
très c'est bien. Bon.
Oui, il faut rajouter les 130 grammes de sucre roux. Dans les œufs. Dans le saladier.
Ah oui, ça m'achète.
Et on fouette l'ensemble.
Non, mais c'est pas.
Non, après, on se vient.
Alors, le citron, non, ce sera plus tard.
Ce sera plus tard ?
Oui. Ouais. Après, il faut faire blanchir le mélange. Alors, chez vous, il existe des fouets électriques. Ils sont très pratiques. Une fois que tout ça est bien mélangé, on peut rajouter la farine, donc les 150 g de farine. Le demi-sachet de levure et les 130 g de beurre demi-sel fondu. On entend un... Et les zestes de ciment de fouettage réguliers, maîtrisés, néanmoins dynamiques.
Ça arrive entre 150.
150 g. Là, ça devrait être plus simple. Il y a bien marqué 150 g sur le verre doseur. La farine.
Je vais aller faire fondre le beurre.
On ajoute tout avant de...
Oui, on peut alors ajouter aussi le demi-sachet de levure. On ajoutera le beurre fondu quand il sera fondu.
Ouais, on va le mettre au soleil déjà.
Et aussi un peu de zeste de citron.
Demi, hein, pas le sachet pour entier.
La moitié. On met la moitié d'un sachet de levure. La moitié très précisément à vue d'œil.
Je découpe. Hein, le...
Il faudra beurrer les moules. Il faudra bien beurrer les moules.
Mais c'est pas... Il faut un peu...
C'est trop. Bah là, c'est juste pour étaler dans les moules. Ouais, tu peux le mettre aussi, t'en veux plus ?
Non, quand je voulais qu'on
ait... Avec le couteau ?
Est-ce que ça va bien ?
Le sous-titrage,
tout petit peu, ouais.
Nous sommes en discussion sur la quantité nécessaire de beurre pour beurrer des moules. Là, c'est une partie très technique de la cuisine.
La pâtisserie, c'est vraiment scientifique. Hein.
C'est précision. Chantal prend un opinel. Mais les autres couteaux doivent marcher aussi pour couper un peu de zeste de citron qu'on va incorporer dans le mélange. Donc une fois le mélange réalisé, on n'attend plus que le beurre fondu. Et il n'y aura plus qu'à mélanger tous les ingrédients. Alors maintenant que le beurre est bien fondu, on peut le mélanger avec tous les autres ingrédients. On a utilisé le micro-ondes pour faire fondre le beurre. Et si vous n'avez pas de micro-ondes, effectivement, ça peut monter la note de la recette très vite s'il faut investir. Ou sinon, Vivien conseille de souffler sur le beurre. Je ne commenterai pas le conseil. Donc, d'une façon générale, c'est une recette qui conseille de bien faire les choses, de bien fouetter, de bien mélanger, de bien beurrer.
Ça va ?
Donc, l'idée, c'est que pour faire le cœur en Nutella, le mieux est d'utiliser une poche à douille pour injecter le Nutella au cœur des madeleines. Mais nous n'avons pas de poche à douille. Maintenant que les moules à madeleine sont bien beurrées, on va les remplir à moitié. Alors, à peu près à moitié. Nous allons donc utiliser la technique du sac de congélation en guise de poche à douille. Donc, le principe, c'est de couper un coin du sac de congélation, l'utiliser comme une poche à douille.
Après l'avoir rempli.
Après avoir rempli le sac.
Tu remplis, tu serres et tu coupes.
Alors, simultanément, nous allons commencer à remplir
la
poche à douille de congélation avec du Nutella ou autre pâte à tartiner. Bon, en l'occurrence, du Nutella. Donc, il vaut mieux qu'il ne soit pas trop dur. Le moule vient d'être à moitié rempli. Donc, on a nos 18 premières madeleines. Et on va passer maintenant à l'étape la plus délicate, sans vouloir mettre la pression à Vivien, qui est d'injecter un peu de Nutella au cœur de chaque madeleine grâce à notre poche à douille.
C'est magique.
C'est
tout à fait magique.
C'est indescriptible.
Ça ne marche pas. Ah si, mais ça va marcher.
Il faut sinon peut-être prévoir un couteau ou quelque chose pour aider.
Pour aider Vivien.
Pour couper le Nutella lorsqu'il sort de la poche.
Il est peut-être pas assez fondu notre Nutella.
On concentre tout le Nutella dans un des coins du sac. Oui. Et on replie au-dessus, ce qui forme une sorte de fraise de chocolat. Et après, il n'y a plus qu'à couper le coin. Et normalement, on a une poche à douille artisanale, mais fonctionnelle.
On va voir. On va tester pour vous.
Je me souviens des vacances passées au village. Je me souviens de l'animation et de la musique. Je me souviens des danses et des sons du tam-tam. Je me souviens du safran et blanc du village qui remplissait les chaussures à chaque pas.
On dit maltraitance aux enfants, à quoi pensez-vous ?
Maltraitance aux enfants, différents types de maltraitance, la maltraitance physique, la maltraitance morale, les insultes, le fait de les dénigrer.
Maltraitance aux enfants, ça m'a pas bien. Ça me vient pas là, je pourrais pas vous dire. Non, moi j'aime mes enfants comme il se doit, je leur fais des câlins tous les jours.
Pour moi c'est honteux, maltraitance aux enfants c'est quelque chose d'abominable parce qu'on n'a pas le droit de maltraiter un enfant. Il est petit, puis d'abord il est petit et puis même on n'a pas le droit de maltraiter un enfant.
Cruauté.
Oui.
Parce que ben, ça ne devrait pas exister, la maltraitance pour les enfants. On fait des enfants, ce n'est pas pour les maltraiter.
C'est dégueulasse. Excusez-moi, non, mais ça ne devrait pas être permis, ça. Oui. Un enfant, c'est un enfant, il n'a rien demandé. La seule chose qu'on a besoin, c'est de l'aimer, c'est tout.
Ils mettent ça... ils mettent un coup de poing.
Oui, mais... Oui.
Ah, celui-là qui fait du mal à l'enfant.
Moi, d'abord, je pense à manque de nourriture pour les enfants dans le monde entier. Et après, la violence viendra en second plan.
À quel type de maltraitance sommes-nous confrontés en France ?
Maintenant, ce sont surtout les familles recomposées, les beaux-pères, qui s'en prennent aux enfants de leur concubine ou de leur épouse. Ils les maltraitent avec des cigarettes, avec des baves, de l'humiliation, tout ce qu'on peut ne pas imaginer. C'est honteux.
Ah, il y en a pas mal, hein. Il y a des maltraitances cachées. Il y a aussi des maltraitances vis-à-vis au niveau de la couleur de peau et tout ça. Donc il y a pas mal de, le racisme est devenu un peu aussi une forme de maltraitance. Donc c'est très dur à vivre pour certains.
Il y a maltraitance de l'oubli de l'enfant où les parents vont laisser leurs enfants devant les tablettes. Pour moi, c'est un type de maltraitance, on s'en occupe pas, c'est une maltraitance affective. Et il y a la maltraitance où on donne des coups et là, c'est pire, quoi.
Tout, je pense, hein, quand on voit les horreurs qu'on entend, il y a un peu de tout. Hein. Mais je trouve que les tribunaux sont pas assez sévères avec ces gens-là.
Racisme.
Normalement, il y en a physique, mental et d'autres formes que je connais pas.
Pouvez-vous nous raconter une anecdote de votre enfance qui vous a marqué ? En bien ou en mal ?
En bien ou en mal, mais moi, j'ai pas été maltraitée. Ouais, mon père, il suffisait qu'il élève la voix que déjà j'avais peur. Donc, donc du coup, je n'ai pas été maltraitée. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui était très à l'écoute et qui était suffisamment autoritaire pour ne pas avoir à me maltraiter.
Mes cousins, qui lui était maltraité, a été enlevé de ses parents et puis c'est sa tata qui l'a récupéré. Et ça m'a marqué parce que j'avais 3-4 ans, quoi. Et ça, ouais, carrément, ça m'a marqué. Ouais.
Ma maman qui me tapait avec des bâtons.
Alors je vais vous dire réellement, celle qui m'a vraiment marquée, c'est quand une fois il y a une voisine à ma maman qui nous a donné un repas et ma mère m'a dit non de ne pas manger le repas parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dans le repas. Donc du coup je me suis pris une assiette dans la tête. Donc depuis ce jour, bon, je fais attention aussi. Bon, j'essaie d'éduquer mes enfants que voilà, on ne sait jamais qui est-ce qui peut leur donner n'importe quoi. Donc, faut pas accepter. Un enfant peut être pris en otage avec un bonbon. Donc, faut faire attention. Donc, après, c'est vrai que ça peut être inoffensif hein, quand on offre un enfant un bonbon. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Donc, pour moi, ça a été un coup dur. Je me dis, voilà, les parents sont toujours protecteurs et on essaie de faire de même pour nos enfants.
Des copains à l'école ou qui étaient pas habillés comme, enfin, avoir des chaussures beaucoup trop grandes pour eux, alors que ça doit pas être... Enfin, je comprenais pas. Puis ça existe toujours aujourd'hui.
La mort de mes parents. Et pour éviter d'être placé, je me suis engagé dans l'armée. Voilà.
Ok, d'accord.
Enfance difficile, ouais. Ça m'a calmé. C'est bien, c'est que ça m'a éduqué, ça m'a rendu droit. Et quand j'ai fini l'armée, parce que malheureusement dans l'armée, à l'âge que j'avais, j'ai vu beaucoup d'horreurs. Et après, bon, je suis passé dans la vie active, et voilà, quoi.
Oh, ouais, j'ai vu des enfants qui avaient été enlevés de leurs parents, qui avaient été mis à l'assistance publique.
Oui.
Et puis là, les parents, ils pleuraient. J'étais un problème d'alcool.
Je suis né pendant la guerre, je connais 8 ans de famine. Donc pour moi, en sortant de mon pays en guerre au Cambodge, ça a été le bonheur.
T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot. Depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente. Ne pas te voir, j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, que tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Et je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu te laveras pas les pognes avant de venir à table. Traîtra d'ivrogne quand je piquerai ton cartable. Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles. T'auras peut-être bien raison, mais je serai vexé quand même. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, allez viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande. Je refilerai mon couteau, je t'apprendrai la truande. Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman. Tous les trois ça sera bien, allez viens, je t'attends. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot.
Les aventures du narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il est encore une fois dans le merveilleux monde subaquatique qui n'est pas un tunnel ni une cave à Frampton, mais une république ashramique dirigée par un grand gourou répondant au nom de Nono le grand gourou, qui n'est autre que Moulmou, ressuscité par le Jubu. Avec lui se trouve embarquée la fine équipe, composée comme un opéra de Calogero, dont le livret serait écrit par Francis Lalanne, mais qu'étrangement, on aurait quand même envie d'écouter. Il s'agit de le Narvalo himself Défense, Yodin des Cémarrons, Ronald Trompette le Magnifique, et Doudur, ravi d'avoir retrouvé son meilleur copain. Tout ce petit monde discute simplement, mais sobrement, une coupe de clairette de Die à la main, au fond du cachot chaud, du donjon carré, difficile à entretenir à cause des coins.
Tu parles d'un sacrifice. Si c'est pour devenir maître du monde des souterrains, je suis prêt, moi aussi, donc à me faire presser la citrouille.
Ça tombe bien mou. On avait un deuxième sacrifice de prévu mou et aucun volontaire mou. C'est stratégiquement Zarbi mou. Le sacrifice aura lieu mou au bel et bas mou pendant la grande représentation mou du cirque du sommeil. Ça te fera 3 euros mou.
3 euros ? Pourquoi 3 euros ?
Cherche pas mou, c'est pour les photos mou et le tour de poney licorne mou.
T'es sûr, papa ? On n'a jamais vu un humain se réincarner par le jus, ou même s'il y a des rumeurs concernant le bisapin.
Après avoir rencontré Elvis, Marilyn et les frères Bogdanov, je ne suis plus un humain pur jus, si j'ose dire. Je pars sans crainte.
Audace, Fortuna, Juva, j'ai envie de te dire.
Le lapin dur, ça déchire dur.
Dictum ac factum. Les voilà sous le chapitum barnum, le cirque du sommeil, à la particularité unique d'être unique. Et composé uniquement de Québécois disparus, engloutis sous la neige à demi-ternelle, à demi-paternelle, lors de chasse aux caribou licornes palmées.
Bonjour, bienvenue à l'unique exceptionnel cirque du sommeil. Mon nom est Bois, Charles Bois le clown, Québécois et brasseur, Claude à mes heures. Lors de ce spectacle, vous assisterez à un lancer de nez.
le lancer de nains n'est pas interdit par la convention de Geneviève, confirmée par Ginette?
Oui, madame, ce n'est pas un lancer de personnes de petite taille, mais un lancer de grands dadins choisis par hasard dans le public par des nains baraqués.
Pas moi doux, où je décapite dur. Le lancer de main doux, c'est plus rigolo dur.
Bref, ensuite une démonstration de poissons-chats accompagnée par des poissons-flûtes, des crabes violonistes, et une chorale de cape japonaise, autrement appelée cape koi, qui chanteront la maman des poissons.
Moi, la chanson française, hein, rien ne vaut Mireille Mathieu et Chantal Goya, à la limite, Patrick Juvet.
Où sont les femmes, avec leurs gestes pleins de charme.
Si c'est toi qui demandes, t'as qu'à considérer que je suis pas là.
Maillot d'un doux, qu'as-tu dur, mauvaise humeur doux. Nana Dieu.
Bah, c'est juste que je ne suis pas dans mon plateau ni dans mon assiette à dessert.
Et enfin, le grand final avec le sacrifice du Navalo en direct live vivant sur scène avec danseuses exotiques équipées de pépins pour les abriter des éclaboussures parce que ça va gigler.
Ainsi débute le spectacle. Ce que n'a pas précisé le clown, c'est que la présentation est intraneuronale. Induite par hypnose provoquée par la spectaculaire Renette Grenouille Géante, surnommée également Lucy in the Sky with Diamonds. Avec ses yeux globuleux et sa taille plus grosse que le bœuf, impossible de lui échapper. Bref, tout le monde dort. Avant d'être réveillé par le bruit de la centrifugeuse amenée pour presser le narvalo.
Avant d'être si pressé à mort, j'aimerais adresser donc un message au bon peuple subaquatique. Je suis fier d'être candidat donc au sacrifice. Vous allez bientôt comprendre votre chance, hâte d'être dégusté par l'empereur.
Hurrah, hurrah, vive le sacrifice.
Sur une échelle d'inquiétude de 1 à 10, dite échelle de la vieille du dessin animé que Stéphane sait peu le nom d'ailleurs, mais que c'est carrément d'à propos, je suis au moins à 9,26. Je subodore une odeur de moufette pas lavée.
Un Français en moins, je m'en fous. Je sais même pas si tu es la France sur la carte de l'Asie.
Et maintenant le grand final, l'apothéose, le bouquet garni, l'express venant à vélo.
J'ai oublié de vous dire un truc très important.
C'est sur ce presse-agrumissage d'une violence inouïe que se termine cet épisode interdit aux moins de 43 ans. Mais il eût peut-être été plus judicieux de le signaler au début de l'épisode. Mais, quel est le secret du narvalo? Où est passé l'empereur qui doit ingérer son jus? Le narvalo est-il définitivement perdu? Sommes-nous enfin débarrassés de cette série incompréhensible? Pour le savoir ou pas, rendez-vous le mois prochain dans une nouvelle émission d'Ozone Libre.
Les aventures du narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Pour la minute du pôle, on a choisi de faire confiance à un petit qui débute qui s'appelle Jean de La Fontaine et qui nous a concocté une petite fable qui s'appelle L'enfant et le maître d'école. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain saut la remontrance vaine. Un jeune enfant dont l'eau se laisse choir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouvât, dont le branchage après Dieu le sauva. S'étant pris, dis-je aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. L'enfant lui crie « Au secours, je péris !» Le magistère, se tournant à ses cris, d'un ton fort grave à contre-temps s'avise. De te lancer « Ah, le petit babouin !»« Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise, et puis prenez de tels fripons, le soin que les parents sont malheureux qu'il faille toujours veiller à semblable canaille. » Qu'ils ont de maux et que je plains leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant, se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En toute affaire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Eh, mon ami, tire-moi de danger, tu feras après ta harangue.
Il est l'heure pour nous de rendre l'antenne à Anouk Onagje. Nous remercions notre invitée, Madame Nathalie Leteur, de l'association La Cause des Enfants, qui n'a pas trafiqué des réponses à nos enfants sur le principe des enfants.
Avec également Vincent Breuil
et Claire Mabille,
du collectif Réseau Éducation Sans Frontières.
Nous remercions donc également l'équipe de Zone Libre, une équipe haute en couleurs et en mots, avec JC le père fouettard, Damien le père fouetté et Timothée le petit père sévère. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast sur la page de Zone Libre du site principactif.net.
Bravo!